Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. 1er août en RDC, entre hommage aux parents et recueillement pour les disparus. Cette journée est un symbole en RDC, une occasion pour les Congolais de penser aux parents vivants et disparus. Nous parlerons aussi de la journée internationale de la femme africaine célébrée hier le 31 juillet. Goma, au Nord Kivu, n'a pas fait exception. Selon les organisatrices, cette activité visait à mettre en lumière la résilience des femmes du Nord Kivu malgré le contexte sécuritaire difficile. Après des années marquées par les attaques des ADF, le secteur de Rwenzori est-il réellement en train de tourner la page à l'insécurité? Où en est aujourd'hui cette entité du territoire des Beni? Pour répondre à ces deux questions capitales, nous nous faisons le plaisir de recevoir pour vous Jafté Mapati, chef du secteur de Rwenzori. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Journée symbolique, c'est 1er août 2026, comme chaque année. Les Congolais célèbrent un double événement, une journée officiellement dédiée à la fête des parents et en même temps au recueillement des personnes disparues. Cela se traduit par des visites au cimetière, l'entretien des sépultures et des séances de prière organisées dans ces lieux considérés comme sacrés. Reportage de Levin Mbwinga et Blaise Ndongala Mayanda.
Le 1er août de chaque année est un symbole en RDC, une occasion pour les Congolais de penser aux parents vivants et disparus. C'est aussi un moment pour affirmer leur attachement aux racines, parfois dans l'intimité des foyers. Des rencontres familiales se tiennent ici et là afin de consolider les liens indissolubles entre générations des plus âgés aux plus jeunes et vice-versa. Ces jours est également une opportunité de communion entre ceux qui reposent désormais dans les silences de l'éternité et les vivants. Parents, jeunes, vieux, se rendent dans les cimetières pour briser ces silences par des nettoyages rapides des tombes et de leurs abords, des coups de peinture ainsi que par les dépôts de fleurs et des plantes. L'objectif est d'embellir les sépultures en mémoire des disparus qui, pour eux, demeurent présents parmi les vivants. D'où l'idée de couvrir ces lieux de repos éternel de beaucoup d'amour. Pour rappel, les congés relatifs à la journée du 1er août dédiée à la fête des parents en RDC a été reporté au lundi 3 août. En effet, cette journée tombant un samedi, jour non ouvrable dans le secteur public, le gouvernement a dédié de la placer selon un communiqué officiel.
Comme à l'accoutumée, le cimetière de Kinshasa retrouve ce 1er août une animation particulière. Des milliers de familles convergent vers les sites de Kintambo, de la Gombe, de Mingadi et d'autres cimetières de la capitale pour rendre hommage à leurs proches disparus. Nous allons vous faire vivre toutes ces ambiances ici, dans la capitale, comme dans d'autres villes de nos provinces, dans nos prochaines éditions. Et puis, une autre date a été aussi célébrée hier, 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Goma, dans le Nord Kivu, n'a pas fait exception. Des panels de discussion, une exposition d'œuvres artistiques ainsi que des produits issus de l'entrepreneuriat féminin ont marqué cette journée d'hier vendredi, la célébration de la journée internationale de la femme africaine. Selon les points focaux de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité, organisatrice de la cérémonie, cette activité visait à mettre en lumière la résilience des femmes du Nord Kivu malgré le contexte sécuritaire difficile. Madame Rachel Mouloulou l'explique au micro de Bernadette Nyangi.
Les femmes, depuis l'année 1960, ont milité pour que la femme puisse même avoir l'accès à l'éducation, puisse avoir l'accès à une vie économique stable, l'autonomisation de la femme, puisque dans les thèmes, il y a aussi l'autonomisation de la femme. Une journée qui cadre avec le relèvement communautaire, puisque la paix aussi, pour que ça soit durable, il faut que la femme puisse avoir aussi des moyens financiers. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est une grande journée puisque ça a mobilisé les produits que les femmes font. Les femmes ont amené des savons, des objets d'art, des espèces, des arbres. Les femmes ont amené des poubelles fabriquées en base de déchets recyclés. Les habits, donc, ça montre que la femme n'est pas seulement victime, elle est actrice aussi de la paix, elle est promotrice de la résilience dans la situation que nous traversons, dans le contexte que nous traversons.
Rappelons que le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme africaine cette année est « Femme africaine, pilier du développement durable et actrice du changement pour l'Afrique de demain ». Coup de projecteur à présent sur la lutte contre les violences basées sur les genres en Ituri. Du côté de l'Ituri, à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet, de chaque année. À cet effet, l'association des mamans anti-Bouaki a lancé hier vendredi un projet. Cela grâce à un financement de 168 000 dollars américains de l'organisation ONU Femmes à Bounia. Sa mission, renforcer la protection, l'accès à la justice et l'autonomisation des femmes vivant en milieu rural dans les zones de santé de Bounia et Darou. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
Parmi les bénéficiaires figure Virginie Kakwa, mère de trois enfants, victime de violence il y a près de 20 ans. Elle a perdu un pied et vit depuis dans une précarité. Comme de nombreuses femmes en situation de handicap, elle espère que ce projet changera réellement leur quotidien.
À prendre en charge nos enfants, car souvent les femmes vivant avec handicap sont abandonnées avec leur grossesse par leurs auteurs.
Pour les autorités locales, cette initiative répond à une réalité préoccupante dans les communautés rurales. Jules Taguirabo, représentant du bourgmestre de la commune de Mbounia.
Beaucoup de cas de viol dans la communauté. Les auteurs de ces viols courent dans la nature jusqu'à aujourd'hui. Les victimes ont été sans assistance, sans prise à charge, sans accompagnement, ont été abandonnées.
Au-delà de l'assistance aux survivantes, le projet prévoit également un accompagnement économique afin de favoriser leur autonomie, explique Béatrice Divé, responsable de l'ONG AMAB.
Il y aura un appui pour la réinsertion socio-économique de manière qu'on relève d'abord le niveau des femmes.
Pendant 12 mois, le projet entend ainsi améliorer l'accès des femmes et des filles rurales aux services de prise en charge tout en renforçant leurs droits et leur autonomisation économique. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Sachez que le 31 juillet coïncide également avec la reconnaissance officielle de l'Ordre national des infirmiers du Congo par l'État congolais. Occasion pour les professionnels de santé de l'Ituri de dresser un bilan jugé mitigé 10 ans après cette date historique. Pour ces hommes et ces femmes, si cette reconnaissance a marqué une avancée importante pour la profession, de nombreux défis restent à relever. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
L'Ordre national des infirmiers du Congo célèbre le 31 juillet le 10e anniversaire de sa reconnaissance officielle. Pour Timothée Kosianza, premier vice-président provincial de l'Ordre, cette avancée reste assombrie par les difficultés auxquelles les infirmiers sont confrontés au quotidien.
Nous donnons les bilans mitigés. Pourquoi? Il y a eu le problème de la sécurité. Il y a beaucoup de structures qui ont été détruites, des infirmiers qui ont perdu la vie. Mais aussi à terme d'enregistrement. Tous les infirmiers devraient avoir un numéro d'ordre. Et il y a des infirmiers qui ne se sont pas encore enregistrés. C'est que, à cause de la sécurité, il y a ceux-là qui ont quitté leur milieu pour se retrouver ailleurs. Et ça fait qu'ils travaillent dans des conditions très, très, très difficiles. Très difficiles dans le sens qu'ils manquent parfois les équipements. Et vous trouvez les hôpitaux n'ont pas les moyens de déplacement. Et vous allez voir qu'il y a des infirmiers qui sont censés transporter parfois les malades sur leur propre moto. On n'a pas les ambulances, on n'en a pas.
À l'occasion de cet anniversaire, l'Ordre national des infirmiers en tant que l'Ituri appelle les autorités à améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Il invite également les communautés à soutenir les équipes de santé engagées dans la riposte contre Ebola et à faire confiance aux professionnels qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies humaines. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Adolphe Mouzito envisage un budget estimé à 18 milliards de dollars américains en recettes propres en 2027 pour la RDC et 40 milliards à l'horizon 2035. C'est ce qui ressort des concertations entre les vice-premiers ministres et ministres du budget avec les ministres des différents secteurs hier vendredi au centre financier de Kinshasa. Échange axé sur les allocations sectorielles du prochain budget 2027. Ces conférences budgétaires des 10 jours qui ont commencé mercredi devront aboutir à l'élaboration de l'avant-projet de loi des finances pour l'année prochaine. Notez aussi que, lors de l'ouverture de ces travaux, le vice-premier ministre a appelé les participants à faire de ces assises un cadre de vérité budgétaire et de responsabilité. On écoute le vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Muzito, dans cet extrait proposé par Guy Matetongo.
Le budget 2027, qui s'inscrit dans une trajectoire pluriannuelle des relèvements progressifs de la pression fiscale, envisage un taux de progression de 14% contre 12,5% de l'année en cours, avant de passer à une moyenne de 15% en 2028 et 2030. L'objectif demeure porté au-delà de 17% à l'horizon 2035. Suivant cette dynamique, les recettes courantes évolueraient de 15,3% de dollars américains en 2026 et à 18 milliards en 2027 avant d'atteindre 21 milliards de dollars en 2028. Nous pensons qu'à l'horizon 2035, nous pourrions atteindre 40 milliards de dollars américains. Le niveau des recettes ainsi envisagé devra donc refléter le réel potentiel fiscal de notre pays dans le respect des principes budgétaires édictés par la loi relative aux finances publiques. En conséquence, j'invite les régies financières et les services d'assiette de déployer des efforts de maximisation de recettes.
C'est parti depuis jeudi dernier avec la session ordinaire du conseil communal de Mbandaka. Au cœur des débats, l'évaluation des travaux d'assainissement et d'hygiène environnementale conformément au plan d'aménagement de la commune adapté lors de la session précédente. Parmi les priorités, l'éclairage public et la gestion des marchés. Plus de détails avec Askin Zigbiatayoro.
Selon le président du bureau du conseil communal, Gelor Ekonzo Ilengila, ce plan d'action porte sur l'aménagement des espaces publics, la gestion des marchés et l'installation de lampadaires pour l'éclairage public dans les 10 quartiers de la ville. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale et d'assurer un meilleur contrôle de l'exécutif communal. D'après le conseil communal, le bourgmestre est tenu d'appliquer ce plan d'assainissement. Toutefois, sa mise en œuvre sur le terrain reste insuffisante. À l'ouverture de cette session, le président du conseil a par ailleurs remercié le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour sa décision d'attribuer au conseil communal le pouvoir de contrôler le bourgmestre. Ce dernier est nommé par ordonnance présidentielle, tandis que les conseillers sont élus par le peuple. En clair, selon le témoignage de 9 conseillers communaux, le bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle ne respecte pas les exigences liées au rôle du conseil communal. Ces remerciements concernent également la prise en charge salariale des conseillers communaux par le gouvernement central, des salaires qui n'étaient pas prévus dans le budget de l'État. Interrogé sur l'actualité politique nationale, Gelor Ekonzo Ilengila s'est dit favorable à une révision ou à un changement de la Constitution, tout en insistant sur la nécessité de soumettre cette réforme au vote du peuple par référendum.
Revenons dans la capitale avant d'aller plus loin. Les travaux sur l'avenue Kassai au niveau de la commune de Barumbu prescampagne. Les lenteurs ou arrêts de l'exécution de ces travaux sont constatés au quotidien. Conséquence, cette situation constitue un véritable problème pour la mobilité et le quotidien des usagers et des riverains. Des difficultés dans la chaîne d'importation ou des livraisons de matériaux de construction essentiels ralentissent souvent la cadence des entreprises exécutantes, expliquent les ingénieurs. Entre-temps, l'ouverture du marché central dépend de l'achèvement des travaux sur ces avenues qui donnent accès au centre-ville de Kinshasa. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'approche de la saison des pluies, les travaux de l'avenue Kassai avancent à pas de tortue, au grand regret des usagers des populations riveraines. Ces œuvres nécessitent souvent la réhabilitation préalable ou simultanée des canalisations souterraines et des collecteurs d'eau pluviale afin d'éviter les inondations, ce qui complexifie et allonge les délais techniques. Les ajustements dans les financements des projets d'infrastructures urbaines contraignent parfois les entreprises à tourner au ralenti en attendant la régularisation de certaines situations administratives ou financières. Face aux désagréments occasionnés pour la circulation, l'avenue Kassai, qui joue un rôle important dans les délestages et des liaisons dans cette zone proche du centre-ville, nécessite une intensification du contrôle et un suivi rigoureux par l'autorité provinciale ou l'office des voiries et drainages afin de pousser l'entreprise à accélérer la cadence. Cette avenue qui relie la Gombe à Barumbu a longtemps souffert d'un délabrement avancé marqué par des bourbiers et nids de poules majeurs lors des intempéries.
Actualité internationale.
Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite a annoncé jeudi 30 juillet 2026 le lancement d'une alliance maritime internationale pour sécuriser la mer Rouge et en particulier les détroits de Bab el-Mandeb entre le Yémen et Djibouti. Il s'agit d'une réponse aux frappes menées la semaine dernière par les Houthis, un groupe armé yéménite soutenu par Téhéran contre les pétroliers saoudiens.
L'invité.
Après des années marquées par les attaques des ADF, le secteur des Rwenzori est-il réellement en train de tourner la page de l'insécurité? Si les violences ont réellement diminué ces derniers mois, les attentes de la population restent immenses. Relance du développement, réhabilitation des infrastructures, accès aux services sociaux et consolidation de la sécurité. Où en est aujourd'hui cette entité du territoire de Beni? Notre invité est Jafté Mapati, chef du secteur de Rwenzori. Il répond aux questions de Martial Papimoukeba.
Jafté Mapati, bonjour.
Bonjour.
Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation du secteur de Rwenzori entre défis sécuritaires et besoins de développement?
Pouvoir retenir que ça fait maintenant environ 3 ans que la situation sécuritaire en secteur Rwenzori est relativement calme. Parlant de la situation sécuritaire, là je vois surtout les attaques des rebelles EDF dont la dernière remonte en janvier de l'année 2025 à l'OCLOC. Mais bien avant ça, ça faisait maintenant 3 ans que nous n'avions pas encore enregistré un seul cas d'attaque. Cette amélioration de la situation sécuritaire a permis à la population du secteur d'évacuer ses activités champêtres, à retourner dans leurs champs, parce que comme vous le savez, nous sommes dans un secteur qui est principalement en vocation agricole. Quand la paix, la sécurité sont rétablies dans les secteurs, il y a plusieurs défis qui se présentent, et notamment les défis d'ouverture de routes à des certes agricoles. Nous sommes dans une zone à vocation agricole. Il y a aussi les ponts qui se retrouvent en fait dans ces routes de dessertes agricoles. Et là, je cite surtout la route qui va de Mwenda Kikingi, qui est une route d'importance très, très capitale, non seulement sur le plan agricole, mais aussi sur le plan opération militaire.
Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations de la population et comment votre administration y répond-elle?
Les principales préoccupations de la population aujourd'hui restent en tout cas l'amélioration à l'accès à l'eau, la desserte en eau potable. Nous avons mené quelques plaidoyers auprès des partenaires financiers et techniques qui nous ont vraiment appuyés. Là, je cite la Monisco, je cite les consortiums Tier Found de CICR qui nous ont vraiment appuyés, n'est-ce pas, à terme d'amélioration de la couverture des dessertes en eau dans les secteurs. Nous pouvons citer par exemple Kilia, Mutuanga et Murambaya Viro Masambo dans le groupement Basongora. Mais il reste encore des défis. Il y a des zones et des endroits qui ne sont pas encore desservis. Nous continuons à appeler ces partenaires qui ont répondu à notre plaidoyer de continuer à nous venir en appui et nous appeler aussi d'autres qui ne sont pas encore intervenus dans les secteurs de pouvoir se joindre à ceux qui sont là afin de pouvoir contribuer aux efforts de la stabilisation et de la consolidation de la paix dans les secteurs des Rwenzori.
Dernière question, malgré les défis persistants dans les secteurs des Rwenzori, quelle est votre vision pour l'avenir de ce secteur?
C'est de voir, en tout cas comme je disais tantôt, les routes être réouvertes parce que, comme vous le savez, la guerre a causé à certaines infrastructures de base et importantes d'être détruites. Certaines parmi elles, notamment les écoles et les centres de santé, ont été incendiés dans le passé.
C'est notamment
au niveau de Kabalwa, au niveau du village de Kilia, au niveau du village de Kiavikere, où nous avons vraiment enregistré d'énormes pertes en termes d'infrastructures et il n'y a pas de moyens pour pouvoir les réhabiliter ou les reconstruire carrément. Bien sûr, nous avons bénéficié des projets des 145 territoires initiés par Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Nous avons bénéficié de certaines écoles, infrastructures sanitaires. C'est ici pour nous l'occasion de saluer et de remercier cette vision du chef de l'État. C'est de pouvoir donner les infrastructures viables aux milieux ruraux qui étaient longtemps oubliés, mais cela n'est pas encore suffisant. Il y a des endroits où, comme je le disais tantôt, ces infrastructures ont été incendiées et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été réhabilitées dans certaines agglomérations du secteur de Rwenzori.
Jafet Mapati, merci.
Merci.
C'était notre invité Jafté Mapati, chef du secteur de Rwenzori, qui s'entretenait avec Martial Papimukeba. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé, le premier de ce matin, coordonné et supervisé par Lévin Mwinga. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a permis que ce journal puisse vous parvenir jusque dans vos salons. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Blaise.